RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
7h11, le week-end des experts, les animaux, c'est reparti. On retrouvera aussi notre vidéo LOLCAT tout à l'heure en fin d'émission. Une vidéo LOLCAT qui est très, 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 très drôle. Encore une fois, on a sélectionné pour vous une vidéo qui va vous faire sourire d'un chat qui ouvre un tiroir. Et voilà, on vous racontera le dénouement de l'histoire tout à l'heure. Laetitia, on va évoquer tout à l'heure, donc je disais, une compétition européenne de surf canin en France. On s'intéressera aussi à la reine Elisabeth II qui est passionnée d'animaux, qui vient de battre son record de longévité de règne.
Et oui, donc c'était l'occasion de parler surtout de ses chiens.
Oui.
Et corgis. Vous allez
exactement
voir.
Mais dans l'immédiat, on va évoquer la pollution lumineuse. Est-ce qu'elle perturbe en fait les animaux, cette pollution lumineuse? C'est vrai qu'il y a de plus en plus de lumière la nuit en fait.
Voilà. Et il y a une étude qui a été dévoilée par une association, l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement, et qui indique que cette pollution lumineuse aurait augmenté de 94% en France, en 20 ans. Et nous avons avec nous Anne-Marie Ducroux, qui est présidente de cette association. Anne-Marie, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bonjour, merci de nous rejoindre. Alors, cette pollution lumineuse, de quoi parle-t-on exactement d'abord?
Alors, cette pollution lumineuse, elle est finalement liée à l'éclairage artificiel la nuit.
Oui.
Il s'agit d'une quantité de lumière émise la nuit. Il s'agit aussi d'effets cette quantité de lumière, tout le monde d'ailleurs a constaté ça ou a pu le voir autour des villes ou même à la campagne. On voit la nuit, quand on regarde le ciel, des halos lumineux proches des villes ou des agglomérations, quelles qu'elles soient, hein, petites ou grandes. On voit aussi le fait qu'on a des lumières qui sont aussi très éblouissantes parce qu'on est en train de changer la nature des lumières que l'on installe en France. Et les nouvelles lumières, les nouvelles technologies ont une capacité éblouissante beaucoup plus grande et c'est pas sans incidence sur la faune nocturne. La pollution lumineuse, c'est aussi finalement atteindre un mécanisme très naturel que le vivant, c'est-à-dire la biodiversité dans son ensemble, mais nous aussi les humains,
et nous aussi,
sur lequel nous sommes construits depuis des années, ce qu'on appelle l'horloge biologique. Les êtres vivants ont une horloge biologique interne et finalement éclairer la nuit, c'est rompre l'alternance naturelle du jour et de la nuit sur lequel le vivant a construit toute son adaptation au cours de millions d'années. Et donc, finalement, on est dans un grand paradoxe, et notamment pour les vivants. On vit de moins en moins exposé le jour à la lumière solaire et on a de plus en plus de lumière la nuit au moment où le corps doit se reposer. Parce qu'il est synchronisé, cette horloge biologique est synchronisée, notamment par les lumières. Et ça atteint donc à votre santé, à votre sommeil,
oui,
à des fonctions physiologiques importantes.
Parce que, alors on parle des impacts, beaucoup des impacts, et dans votre étude, vous parlez beaucoup des impacts sur l'homme, mais les animaux aussi ont une perturbation de leur horloge biologique. Mais est-ce que ces perturbations concernent plutôt les animaux diurnes, ceux qui vivent le jour, ou les nocturnes?
Effectivement, il y a 30% des vertébrés et 60% des invertébrés qui sont nocturnes. Donc, vous voyez, déjà, il y a une énorme proportion des animaux qui sont en fait des animaux nocturnes. Néanmoins, alors ceux-là sont directement, bien sûr, concernés, impactés par une lumière qui n'était finalement pas programmée dans leur existence, en quelque sorte. Mais la biodiversité diurne a, elle aussi, besoin d'une qualité de la nuit. C'est comme nous, finalement. On n'est pas naturellement des mammifères nocturnes, mais néanmoins, nous avons besoin d'une qualité de la nuit pour bien vivre en diurne.
Alors, quand on parle de pollution, par exemple chimique, c'est souvent plus facile de voir les effets sur la faune sauvage. Mais alors, en ce qui concerne la pollution lumineuse, c'est quand même plus difficile. Est-ce que le sujet intéresse les scientifiques?
Il intéresse les scientifiques, mais parfois à la marge d'autres études. Donc c'est pour ça que on a produit une étude qui fait l'effort de recenser toutes les études scientifiques qui parlent des effets de la lumière sur la biodiversité.
Oui.
C'est pas toujours une question centrale.
Oui.
Les observations ou les informations naissent parfois à la périphérie d'un autre sujet. Mais on s'aperçoit que de plus en plus d'équipes, de programmes s'intéressent à ces questions et surtout constatent les effets sur l'ensemble des espèces, des mammifères aux reptiles en passant par les oiseaux et les amphibiens, etc. Donc il y a vraiment un ensemble de faisceaux dans ces études d'indication qui nous permettent de penser que vraiment les impacts de la lumière artificielle nocturne sur le vivant sont à investiguer encore plus et à prévenir de plus en plus, puisque nous avons de plus en plus de lumière la nuit, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure. Nous avons sorti une courbe qui montre que depuis les années 90, cette lumière la nuit en France a augmenté de 94%.
Alors, on pourrait se dire, bon, ben, s'il y a des zones lumineuses comme des villes, ben, les animaux, ils ont qu'à aller dans des zones de campagne où là, ben, c'est pas éclairé. Alors, mais vous parlez qu'il y a un autre problème, c'est la fragmentation des habitats.
Alors, première chose, d'abord, nous avons sorti une carte de pollution lumineuse en France, puisque nous avons une méthodologie pour établir ce type d'état, hein, qui permet de visualiser où on en est, de la qualité de la nuit en France. Bon, déjà, cette carte, elle montre que finalement, la tonalité globale en France est jaune, ça veut dire que la qualité de la nuit est faible à médiocre. Et cette tendance française, d'ailleurs, c'est aussi celle des Européens et des États-Unis. On dit, il y a une étude qui a déjà quelques années, mais qui dit que 99% des Européens et des États-Unis vivent dans un ciel pollué par la lumière la nuit. Donc déjà, partout, la situation est médiocre. Ensuite, il y a quelques zones, comme vous dites, où les animaux pourraient se réfugier. Mais en fait, les choses se passent pas exactement comme ça, parce que finalement, la lumière, elle a un effet à distance des sources. C'est une propriété physique. Oui. Elle n'existe pas là où elle est produite. Elle existe là où elle est produite et à distance des sources. Ce qui fait que cette lumière, on dit effectivement qu'elle fragmente les milieux, puisque elle va, par ses propriétés, attirer certaines espèces ou au contraire repousser certaines espèces. Alors si je prends un exemple pour être plus concrète, quand on dit qu'une route ou un barrage fragmente un milieu, ça veut dire qu'il crée un barrage naturel dans un espace, un environnement décrit. Donc quand on voit physiquement un barrage, on comprend de quoi on parle. La lumière, en fait, pour certaines espèces, ça constitue véritablement un barrage. Imaginez par exemple un saumon qui dans la Loire doit remonter toute la Loire pour aller effectuer sa migration et sa reproduction en Atlantique. Eh bien, ce petit saumon qui fait déjà quelque chose qui est absolument héroïque.
Oui, bien
il
sûr,
doit déjà
remonter
traverser
les courants, etc.
Il doit faire quelque chose avec des forces qui sont très comptées, mois, minutées. Mmh. Il doit remonter la Loire. Il a déjà des barrages physiques à franchir. Il a des pollutions chimiques. Il a des pressions diverses qui s'exercent sur lui. Et désormais, si vous voulez, s'ajoute à toutes ces pressions qu'on connaît déjà une pression nouvelle qui est la lumière qui se combine aux autres, parce que vous avez de plus en plus de ponts, par exemple, qui sont éclairés toute la nuit, dont vous les voyez en ville ou dans différentes agglomérations. Les arches des ponts sont éclairées en bleu, en vert, en rose, en jaune, etc. Et tout ça, ce sont des lumières qui sont finalement projetées dans un milieu naturel et qui peut avoir, pour certaines espèces, une propriété de repoussoir et qui empêche certaines espèces de traverser cette barrière invisible de la lumière.
Anne-Marie Ducroux, vous restez avec nous. On poursuit dans un instant. Il est 7h19 sur RMC. On s'intéresse à l'incidence de la lumière sur les animaux.
Et sur les oiseaux.
Et sur les oiseaux aussi.
En particulier, parce que c'est là où on le voit vraiment. On a parlé des poissons, vous voyez, aussi les insectes, les reptiles, les mammifères et les oiseaux.
On en parle dans un instant. C'est RMC, c'est le week-end des experts. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts. 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
C'est h 22, c'est RMC, c'est le week-end des experts. On s'intéresse aux conséquences de la lumière, de la pollution lumineuse sur les animaux, Laetitia.
Oui, les éclairages de nuit.
Oui.
Voilà.
Et il y en a de plus en plus, bien sûr.
Voilà.
Pour des raisons de sécurité.
On parle beaucoup des impacts sur l'horloge biologique de l'homme, mais il y a aussi des impacts chez les animaux et en particulier chez les oiseaux. Et nous allons en parler avec Jean-Philippe Ciblé, qui est ornithologue et directeur du service du patrimoine naturel au Muséum national d'histoire naturelle. Jean-Philippe, bonjour.
Bonjour. Oui, bonjour.
Bienvenue dans notre émission. Alors, on a parlé donc des conséquences sur la biodiversité, sur les espèces en général. Alors, concernant les oiseaux, je sais qu'il y a eu des études, et surtout sur les oiseaux migrateurs qui seraient comme ça perturbés par ces éclairages la nuit.
Oui, absolument. C'est d'ailleurs les oiseaux qui ont été les premiers sujets d'études et sur les conséquences de la pollution lumineuse. Et d'ailleurs, ces conséquences, elles sont connues de façon très ancienne, puisque il y a fort longtemps, les anciens avaient déjà remarqué que les oiseaux étaient attirés par la lumière des phares et que notamment lorsqu'il y avait des conditions météorologiques très défavorables, beaucoup d'oiseaux venaient mourir en se cognant sur la lanterne des phares. Donc effectivement, les oiseaux sont attirés par la lumière. Cette
oui.
lumière, lorsqu'elle est parasite, les empêche de se diriger correctement, puisqu'on sait que différents mécanismes permettent aux oiseaux de se repérer, mais notamment les étoiles. Et évidemment, lorsqu'on a des lumières parasites, les étoiles ne sont plus visibles et du coup, les oiseaux sont susceptibles d'être dérangés. Alors, non seulement par des lumières qui sont les lumières de nos villes et de l'urbanisation, mais aussi par des lumières qui peuvent être de plus en plus parasites, comme par exemple les lasers qu'on utilise. C'est très fréquent aux États-Unis, mais c'est de plus en plus fréquent chez nous. Ces lumières ont des effets tout à fait désastreux, surtout si on les associe avec nos constructions modernes, qui sont des constructions qu'on fait de beaucoup de verre et d'acier. Et dans ce cas-là, on a des collisions très fortes et très importantes d'oiseaux qui viennent heurter les parois des immeubles. Et donc ça a été étudié aux États-Unis.
Oui, parce que je crois qu'à New York, il y a eu des problèmes d'oiseaux qui étaient attirés par les gratte-ciel, comme les insectes hein, qui sont attirés par des lumières, et qui venaient s'écraser sur les gratte-ciel la nuit.
Tout à fait, vous avez complètement raison. Et du coup, le phénomène a été mesuré, a été quantifié, et ça porte sur des dizaines, voire des centaines de milliers d'oiseaux, parfois cumulés à l'échelle de la planète, c'est probablement beaucoup plus. Et donc du coup, il faut bien comprendre que les populations d'oiseaux, c'est pas comme les populations d'insectes. Les populations d'insectes, évidemment, on est sur des chiffres tout à fait conséquents. Donc la mesure de l'impact de la pollution lumineuse sur les insectes, elle est probablement très importante, mais on la mesure moins bien que pour des oiseaux.
Et oui.
Donc il faut bien savoir que, par exemple, un chiffre que les gens connaissent peu, il n'y a en France que 13 espèces d'oiseaux dont les effectifs reproducteurs dépassent le million de couples. Donc on n'est pas sur la plupart du temps, on est sur des effectifs de quelques centaines de milliers, voire quelques dizaines de milliers. Donc évidemment, si on rajoute aux différentes causes de perturbation qu'on connaît, la pollution, la diminution des habitats, parfois la chasse pour certaines espèces, eh bien à ce moment-là, on va vers des crashs de population qui sont tout à fait conséquents.
Jean-Philippe, vous restez avec nous.
Oui.
Il est bientôt 7h30. On va retrouver Laetitia, la météo et les infos. Et on va poursuivre encore pendant quelques instants sur ce sujet, sur la pollution lumineuse et la perturbation qu'elle peut engendrer sur les animaux. On évoquera aussi le règne de la reine Elisabeth II, qui est passionnée d'animaux. Et puis, on évoquera aussi une compétition européenne de surf canin en France. Et vous saurez tout sur Indy, la chienne de Laetitia Barlerin, qui cherche un fiancé. Et le problème, c'est que c'est pas gagné. On vous raconte tout ça dans quelques instants. À tout de suite. Laetitia, il est temps de retrouver notre question flash. En moins de 2 minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Raymond. Raymond qui nous dit ceci, Laetitia. Mon cocker américain de 9 mois refuse de dormir dans son cou findouillé. Que faire?
Alors, écoutez, Raymond, peut-être que d'abord son couffin est trop grand. Et oui, parce que quand le couffin est trop grand, le chien se sent pas à l'aise. Il faut qu'il soit en boule. Il vaut mieux un petit couffin où il se met vraiment en boule qu'un grand un king size whisper.
Voilà.
Ensuite, est-ce que l'emplacement est bien choisi? Est-ce que vous n'avez pas mis le couffin dans un endroit frais, voire avec des courants d'air? C'est tout bête, hein, mais les courants d'air, ils aiment pas. Ou en plein soleil, tout simplement. Mm-hmm. Et là aussi, le chien n'apprécie pas trop. Ou est-ce que votre couffin est toujours dérangé? C'est-à-dire, est-ce que des personnes viennent le perturber ou passer trop près de ce couffin? Ou alors vous-même, est-ce que vous allez déranger votre chien dans le couffin? Parce que vous savez que, normalement, il ne doit pas être dérangé dans le couffin. Vous ne pouvez pas lui gronder, lui donner des médicaments, ou le caresser, même quand il est dans son couffin. Mm-hmm. C'est son endroit à lui, c'est là où il doit être en sûreté. Donc ce que vous allez faire, c'est d'abord voir si l'endroit n'est pas venté ou trop froid. Ensuite, vous allez y mettre un linge avec votre odeur. Vous allez aussi y mettre un jouet du chien. parce qu'il va retrouver ce couffin.
Ah oui.
Et puis surtout quand il est dedans, bah vous allez pas le perturber, et surtout demander s'il y a des enfants dans la maison de pas venir embêter le chien quand il est dans son couffin. Faut vraiment que ça soit le no man's land, cet endroit-là, ça doit être l'endroit où il doit être vraiment en sûreté, et quand il y va, personne ne vient le déranger. C'est
d'accord.
Vraiment ça.
On rajoute des petites odeurs, des petites phéromones, c'est même pas la peine.
Oui, non, un linge avec un t-shirt avec votre odeur, c'est
ça,
très bien.
C'est très bien. Parfait. 32-16 hein, pour toutes vos questions animaux sur RMC, on vous attend.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Il est 8h-25, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Bien le bonjour à vous toutes et à vous tous. Peut-être venez-vous de nous rejoindre. Eh bien, soyez les bienvenus. Vous êtes au cœur de ce rendez-vous unique. Seul RMC vous propose 2 heures dédiées aux animaux. C'est chaque dimanche. C'est suite. Ensuite, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui répondra à toutes vos questions auto. Que risque-t-on désormais à laisser une épave dans son jardin? Bon, ça arrive pas tous les jours, ça. Mais c'est vrai, hein. Abandonner une voiture, quels sont les risques? On essaiera aussi la Renault Espace 5 TCE 200 initiale. Et on évoquera tout à l'heure entre 9 et 10 le prix des carburants. Pourquoi les prix sont-ils plus élevés dans les stations, par exemple, isolées? On évoquera ce sujet tout à l'heure, donc, avec Jean-Luc Moreau. Laetitia, d'ici là, on repart avec la pollution lumineuse, hein, qui a un impact sur certains animaux.
Voilà, et on parle des oiseaux avec Jean-Philippe Ciblé, qui est ornithologue et directeur du patrimoine naturel au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors Jean-Philippe, tout à l'heure on parlait des oiseaux migrateurs, la perturbation due à ces lumières sur leur comportement, mais il paraît aussi que avec les éclairages nocturnes, les oiseaux chantent plus tôt le matin, c'est vrai ?
Oui, c'est tout à fait exact. On a constaté des perturbations dans la façon dont le chant s'exerce. Et c'est vrai que beaucoup d'auditeurs ont certainement constaté ça. En hiver, on a des oiseaux qui se mettent à chanter, des merles, des rouges-gorges, parce que effectivement,
oui,
l'éclairage perturbe leur appréhension de ce qu'on appelle le rythme nyctéméral, c'est-à-dire l'alternance du jour et de la nuit, qu'il faut bien avoir en tête, est un rythme ancestral auquel les organismes vivants sont habitués depuis l'origine.
Mais alors, si on dort moins, on est fatigué, on est fragile. Est-ce que on a une fragilité chez ces oiseaux diurnes qui n'ont pas des nuits complètes, du coup?
Oui, tout à fait. Alors, on pourrait considérer comme ça, en première analyse, que ces suréclairages, finalement, c'est une bonne chose, puisque ça permet aux oiseaux d'avoir plus de temps pour s'alimenter, ça permet aux oiseaux de se reproduire plus facilement. On a constaté, par exemple, que des moineaux, maintenant, avaient plusieurs nichées, voire même étaient capables de nicher en période hivernale, en utilisant la chaleur et la lumière des réverbères, puisqu'ils faisaient leur nid à l'intérieur du dispositif. Donc, tout ça, ça paraît une bonne chose, mais en réalité, c'est une perturbation qui modifie pas mal de choses, et notamment quelque chose auquel on ne pense pas forcément spontanément, c'est la modification des relations entre les proies et leurs prédateurs. Certaines proies deviennent plus facilement attrapables, mais d'un autre côté, le temps passé par les animaux à les capturer est également un temps qu'ils n'utilisent pas justement pour le repos ou pour la reproduction.
D'accord.
Donc tout ça est effectivement relativement... méconnu et commence à être bien étudié, et on commence à en mesurer les conséquences.
Merci beaucoup Jean-Philippe Ciblé.
Merci beaucoup, et merci aussi à Anne-Marie Ducroux, qui est présidente de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, qui a publié cette étude sur la pollution lumineuse. Et c'est vrai qu'on en parle très peu, mais
très intéressant.
On parle beaucoup de pollution chimique, mais très peu de pollution lumineuse, et ça a aussi un impact sur la biodiversité.
Voilà, et je vous rappelle l'adresse du site ANPCEN.fr, l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne.
Alors, sans transition.
Ah oui, alors parce que là, on va traverser la Manche.
Oui.
Hein, Laetitia?
Oui, et on va aller, en Angleterre, parce que vous savez que,
Voilà. Attention.
La reine Elisabeth II vient de battre le record.
La couronne vous va bien, Laetitia.
De longévité. Sur le trône d'Angleterre.
Eh oui.
Plus de 63 ans.
C'est beau quand même, hein.
Ah oui.
Alors,
c'est l'occasion de parler de cette reine qui adore les animaux quand
même. C'est vrai, elle adore les animaux.
Alors, en particulier quand même les chiens et les chevaux. Et nous sommes avec Marie-Hélène Bellac, qui est auteure d'un livre qui s'appelle Histoire des animaux célèbres aux éditions Perrin. Marie-Hélène, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Alors, dans... Merci.
Bonjour.
Alors, dans ce livre, vous êtes parti sur la trace des animaux qui ont fait l'histoire. Et ce sont souvent des animaux célèbres, car ils appartiennent à des personnes illustres. Alors, c'est vrai aussi pour la reine Elisabeth. Alors, quand on voit la reine Elisabeth, souvent elle est en photo avec des chiens d'une certaine race, hein, c'est la race Corgi.
Oui.
Alors, d'où lui vient cette passion pour les chiens?
Alors, en fait, tout enfant, elle aimait les chiens, mais disons qu'il y a aussi une tradition chez les souverains britanniques
oui.
qui ont toujours possédé beaucoup de chiens. On raconte par exemple que la reine Victoria en a possédé plus de 80.
Ah oui.
Ce sont des gens aussi qui ont des châteaux à la campagne, on chasse, donc il y a beaucoup, je dirais, de raisons d'avoir des chiens. Et alors surtout, Elisabeth, quand elle était toute petite fille, puisqu'elle avait à peine 7 ans, a rendu visite à des amis, disons, de la famille, hein, le vicomte de Weymouth, et ces gens, leurs enfants plutôt, possédaient un chien qui est peu connu, qui était peu connu, enfin maintenant il est connu grâce à la reine d'Angleterre, mais il n'était pas à l'époque. C'est donc, comme vous avez dit tout à l'heure, un corgi. Alors le corgi, c'est un chien d'origine galloise, c'est un chien en fait de berger.
C'est un chien bizarre quand même. On dirait
oui.
qu'il a la tête, la tête d'un berger allemand sur un corps de teckel, quoi.
Oui, un peu assez bas sur pattes. Bon, on dit qu'il peut être très affectueux, il peut être aussi très désagréable et notamment mordre les mollets, puisque c'était
oui.
au départ pour amener les brebis égarés, il n'hésitait pas à mordiller. Il a conservé parfois ce type de comportement. Donc, ce chien leur a plu, leur père, le père d'Elisabeth et de Margaret, hein, des deux filles, des deux princesses, leur en a offert un. Et puis, ce chien a donné, enfin c'était une chienne, naissance à d'autres petits. Et finalement, quand Elisabeth a eu, enfin, alors d'abord on la voit beaucoup de photos quand elle était enfant, avec son chien dans les bras,
oui.
elle était extrêmement affectueuse. Et quand elle a eu 18 ans, ses parents lui ont offert pour son anniversaire un chien qui s'appelait Suzanne, toujours un de ses fameux corgis. Et de cette Suzanne est descendue toute une lignée de chiens absolument impressionnante.
Jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui. Alors elle en a eu parfois jusqu'à une trentaine.
Oui.
Aujourd'hui, elle n'a plus que deux corgis. Et deux d'orgies, parce que alors il y a une histoire qui se greffe là-dessus. En fait, toute la famille royale a des chiens, mais ils n'ont pas tous les mêmes chiens. Et sa fille, la princesse Anne, avait un terrier d'Achund qui a fauté avec un des corgis et ça a donné ce qu'on appelait un d'orgie. Voilà, en fait un bâtard.
Hein, un bâtard. Oui, mais bon, c'est noble.
Mais
voilà.
Bon.
Mais alors, ce qui est étonnant avec la reine Elisabeth, c'est que bon, elle a l'image quand même d'une femme de poigne, hein, quand même. Mais
oui,
alors,
oui.
avec ses chiens, elle est du genre très permissive, quand même.
Ou complètement permissive. C'est même, je dirais, il y a même eu un certain nombre de problèmes, parce que si un chien mord un valet de chambre, c'est le valet de chambre qui est renvoyé. C'est pas le chien qui est puni.
Ah oui,
il attaque. Ah oui, oui, non, non, les chiens ont tous les droits. D'ailleurs, ils dorment dans une pièce qui est près de la chambre de la reine, dans des corbeilles qui sont surélevées pour éviter les courants d'air. Et,
non, mais ils ont des gamelles en argent ou quoi?
Je ne sais pas, à vrai dire, mais ça pourrait être le cas. Elisabeth les amène partout. Il faut quand même savoir que quand elle s'est mariée avec le prince Philippe, elle a amené Suzanne avec elle. Il n'était pas question qu'elle parte en voyage de noces sans son chien.
Ah, bon.
Et est-ce qu'il y a eu des accidents diplomatiques ou politiques dus à ces chiens?
Alors, pas d'accident diplomatique, mais enfin, il y a eu par exemple des incidents, des chiens qui ont mordu d'autres, un certain nombre de personnes, notamment dans les parcs. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, ce qu'on ne dit pas trop, on ne la voit pas tellement, c'est que la princesse Kate a elle aussi un chien. Alors, c'est pas le même chien, c'est un cocker qui s'appelle Lupo, hein, du nom de loup en italien. Et par exemple, lors des fêtes de Noël où toute la famille se réunit, elle n'amène pas Lupo, justement, pour éviter qu'il y ait de bagarres entre les chiens.
Ah oui.
Parce qu'on a eu beaucoup dans le passé. Alors aujourd'hui, bon, la reine étant âgée, on fait quand même attention à ne pas la mécontenter. Et donc, comme ces chiens sont avec elle, même à table, partout, il n'est pas question qu'il y ait d'autres chiens.
Mais je crois en plus qu'elle a réduit son effectif de chiens parce que ça devenait dangereux un petit peu pour elle.
Oui. Alors, oui, elle en a plus que deux, donc Corgi et deux Dorgi, parce que d'abord, elle a dit qu'elle ne voulait plus en avoir d'autres parce qu'elle n'avait plus la force de les élever.
Ah oui.
Parce qu'elle les a toujours élevés depuis qu'ils sont, enfin depuis bébé, hein. Et puis qu'elle ne veut pas en laisser derrière elle à ses enfants. Et puis il faut dire que ses conseillers n'y tiennent pas parce qu'on disait tout à l'heure que ces chiens sont un peu quand même bagarreurs.
Oui. Et ils mordent les.
Que, voilà. Et puis en plus ils ont peur qu'elle trébuche tout
et
simplement.
Oui, bien sûr.
Une vieille dame, hein. Donc avoir des chiens dans les pattes comme ça, qui bougent beaucoup, c'est pas non plus une solution idéale. Donc effectivement, elle a réduit son nombre de chiens.
Merci beaucoup Marie-Hélène pour ces petites anecdotes croustillantes.
Alors, bonne journée.
Merci
bonne journée. Alors si vous voulez avoir d'autres histoires de chiens, de personnes illustres ou d'autres animaux d'ailleurs, je vous conseille vraiment de lire ce livre Histoire des animaux célèbres aux éditions Perrin. Il y a beaucoup d'anecdotes et vraiment c'est croustillant justement.
Merci beaucoup. Et on revient dans un instant Laetitia avec cette histoire étonnante. Est-ce que les chiens peuvent faire du surf?
Il y a une compétition aujourd'hui.
Que oui.
Alors j'espère qu'ils seront bons.
Cela dit, à mon avis, ils sont peut-être meilleurs que nous parce qu'ils ont quatre pattes.
Ah,
ils sont peut-être plus stables.
Stabilité, oui.
C'est peut-être pas mal.
Enfin, quand il y a une grosse vague.
Eh oui, qu'est-ce qui se passe? On va en parler dans un instant avec notre invité. Et puis, on prendra des nouvelles d'Indy. Indy, c'est le chihuahua de Laetitia. La chihuahua de Laetitia, qui en ce moment est amoureuse. Ben oui, c'est sa période. Le seul problème, c'est qu'elle n'arrive pas à trouver de fiancé. Donc nous allons lancer un appel vibrant dans un instant. Le chihuahua de Laetitia cherche un fiancé. C'est pas facile. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
C'est le week-end des experts, c'est les animaux avec Laetitia Barlerin. À suivre notre vidéo rigolote de ce dimanche matin que vous retrouverez sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. On va parler d'Indy, le chihuahua de Laetitia qui est amoureuse et dans l'immédiat, on va évoquer ces chiens qui font du surf.
Et oui, parce qu'aujourd'hui a lieu à Vieux-Boucau-les-Bains, dans les Landes, pour la seconde année, une compétition européenne de surf canin.
Ah oui.
Et c'est organisé par l'association Les Toutous Surfeurs.
Les Toutous Surfeurs.
Oui, une association qui a été cofondée par le docteur Damien Médan, qui est vétérinaire sur la côte basque et que nous avons avec nous.
Bonjour,
bonjour
Damien.
Bonjour Damien, cher confrère.
Bonjour.
Alors, une association de toutous surfeurs. Faut quand même le faire, hein.
Oui.
Comment est née une association pareille?
Alors, ça nous est venu l'idée dans notre pratique quotidienne, puisqu'on exerce à Bidart, à côté de Biarritz, juste à côté des spots de surf. Et en fait, il y a des gens qui nous amenaient leurs chiens qu'on suit et qui nous ont dit qu'ils surfaient un petit peu avec leurs chiens ou qu'ils faisaient simplement des balades en paddle.
Oui.
Et donc on s'est dit que ça serait peut-être sympa d'organiser quelque chose pour les rassembler, tous ces gens qui faisaient ça un petit peu tout seuls dans leur coin, et pouvoir en profiter pour leur donner des conseils pour la santé et la sécurité des chiens. Voilà, donc on s'est dit pourquoi pas faire même une petite compétition pour avoir un peu de visibilité et rassembler aussi tout le public sur la plage avec leurs chiens qui sont amis et faire quelque chose de sympa.
Alors, comment apprend-on un chien à surfer?
Alors, en fait, faut y aller vraiment doucement parce que c'est pas naturel pour lui de surfer,
voilà.
Évidemment.
On se demande si le chien est très coopérant, on va dire. Hein,
c'est... Voilà, il faut qu'il aime l'eau, qu'il aime faire ça, en fait. Hein. C'est comme toutes les autres activités canines. Hein. Il y a des chiens qui font de l'agility, du traîneau, etc. Et il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas, donc on trouve ce qu'ils aiment. Et il y a pas mal de chiens finalement qui aiment bien aller dans l'eau et qui aiment bien faire un petit peu de surf.
Ah
donc
bon
pour leur apprendre, on y va doucement, on met la planche sur le sable simplement. Au début, on leur demande de monter sur la planche, on les félicite, etc. Et puis ensuite, on met la planche sur un petit peu d'eau juste au bord de la plage, un jour où il n'y a pas de vagues. On le fait monter sur la planche pour l'habituer un petit peu à l'équilibre. Et après, s'il y a très peu de vagues, juste 20-30 cm, on va un petit peu plus loin. Et dans la mousse, on pousse la planche pour le faire juste glisser un petit peu. Et là, il y en a beaucoup qui s'amusent, qui remuent la queue, ils sont contents.
Voilà. Alors, Justement, on a posé la question à nos auditeurs, savoir ce qu'ils en pensaient du surf canin. Est-ce que c'est amusant, ridicule, dangereux? D'abord, est-ce que c'est dangereux?
Ça peut être dangereux, oui. Il faut faire attention. Déjà, vaut mieux demander à son vétérinaire d'examiner le chien et voir qu'il n'y ait pas de contre-indication à aller dans l'eau.
Oui.
Il y a certaines pathologies qui peuvent contre-indiquer cet exercice. Alors, ça peut être les pathologies cardiaques, comme pour toute autre activité finalement, ou les pathologies respiratoires. Il y a certains chiens qui ont le museau aplati et qui peuvent avoir des difficultés respiratoires, donc les faire nager, c'est pas forcément une bonne idée.
Ah, pourtant, on voit des vidéos qui traînent là comme ça sur Internet, où il y a des bulldogs anglais qui font du surf.
Oui, et alors on leur met des gilets de sauvetage. D'ailleurs, nous, pendant la journée à Vieux-Boucault, là, on va mettre un gilet de sauvetage à tous les chiens qui vont participer.
D'accord.
Soit des bulldogs ou n'importe quoi d'autre, pour vraiment assurer la sécurité. Et ceux qui font ça donc avec leur chien, je leur conseille vraiment de mettre le gilet de sauvetage.
Ah bah oui.
Oui, voilà.
Et
ensuite,
alors,
on peut contre-indiquer aussi cet exercice, surtout aux chiens qui sont épileptiques.
Oui.
Ah oui. Les épilepsies dans l'eau.
Bien sûr.
Là, ça peut être très grave. Et il y a certains médicaments aussi qui peuvent inhiber le réflexe d'apnée. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux demander au vétérinaire.
Bien sûr.
Voilà. Alors, juste pour finir, pour ceux qui sont dans le coin, là, à Vieux-Boucault, les bains dans les Landes, on peut s'initier avec vous au surf,
oui,
avec
alors,
son chien.
En fait, on a pris les inscriptions à l'avance. Donc, on a une trentaine de chiens que l'on va initier.
Oui.
Là, maintenant, on peut pas en faire plus. Donc,
on peut venir vous voir.
Oui, voilà, vous pouvez venir nous voir. Sur la plage, l'entrée est gratuite sur la plage, évidemment, et on peut venir avec son chien en le tenant en laisse pour pas que ce soit
un peu n'importe quoi.
Mais voilà, on peut venir, ça va, il fait assez beau, donc ça va.
Ça va aller.
Merci beaucoup, Damien.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a un site internet toutous-surfeur.fr au pluriel.
Voilà, tout ça au pluriel. Laetitia, un mot quand même sur votre chouchou, votre chienne, Indy. Laetitia qui est arrivée ce matin en me racontant une histoire incroyable. Indy, la chienne de Laetitia, est amoureuse en ce moment.
D'Apollon. Apollon, le chihuahua, autre chihuahua.
Donc il faut expliquer que donc Indy est en chaleur que donc elle essaie de rencontrer un joli copain.
J'ai trouvé un fiancé, elle accepte le fiancé.
Voilà.
Le problème c'est qu'Apollon ne la regarde pas.
C'est-à-dire qu'Apollon se fout complètement d'Indy.
Oui.
Mais ça doit être terrible, ça, la maison.
C'est horrible.
Hein?
C'est horrible.
Mais pourquoi?
Alors que tous les chiens du quartier sont amoureux d'Indy,
oui.
Apollon.
Mais c'est toujours comme ça, vous savez, l'amour.
Amoureux d'Indy.
C'est incroyable. Et donc, Apollon, il est devant Indy, il ne se passe rien.
Et pourtant, elle lui fait du charme.
Eh oui.
Ah oui, mais
elle lui fait la danse du ventre, etc. Elle bombe le torse.
Oui, elle a sorti le grand jeu.
Elle a sorti le grand jeu.
Je la reconnais pas, mais alors Apollon la regarde d'un air en train de dire mais qu'est-ce
elle doit se, elle doit se dire Apollon est un peu long en ce moment. Bah oui, mais ça c'est normal. Copyright Aurélie Frex, notre productrice.
Je ne sais pas, je vais leur passer des love songs.
Ouais, ça marche pas donc pour l'instant.
Non, mais je vais leur passer quand même des love songs, hein, donc Barry White, tout ça.
Viagra pour chien, ça sert à rien, Laetitia.
Oh le pauvre.
Non.
La pilule bleue là pour Apollon, non.
Non, c'est pas bon. Laetitia, on termine avec notre vidéo LOLcat. Non, mais il fallait quand même vous tenir au courant de cette histoire quand même. Laetitia a une vie privée quand même bouleversante. Il fallait qu'on soit au courant. Laetitia, on termine avec notre vidéo LOLcat de ce dimanche matin que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC. C'est un chat qui se fait prendre en flagrant délit d'ouverture de tiroir.
Oui. Alors, il a une réaction incroyable.
Ouais.
C'est qu'il s'aperçoit à un moment qu'on le filme quand même. Donc, il regarde la caméra.
Il ouvre un tiroir, il fouille dedans, etc.
Voilà, il prend quelque chose.
Il prend quelque chose.
Et c'est à ce moment-là qu'il voit qu'on le filme. Et il regarde la caméra et doucement, il referme le tiroir, l'air de dire c'est pas moi.
Ni vu ni connu, je t'embrouille, c'est pas moi.
C'est pas moi.
Voilà.
Non.
Et alors, le chat, en plus, est magnifique.
C'est un Scottish Fold. C'est-à-dire, ce sont les chats, vous savez, à tête ronde avec les oreilles qui sont pliées vers l'avant.
C'est trop mignon.
Mais la tête du chat quand il voit qu'on le prend sur le fait, c'est vraiment à mourir de rire.
C'est un peu comme Jean-Luc Moreau quand il prend la dernière part de côte de bœuf, vous savez, et qu'on surprend. Et d'un coup, il la repose gentiment. J'ai vu, hein. Je sais que c'est comme ça.
J'ai appris que Apollon avait un peu de mal à décoller.
Mais oui, c'est ça. Mais alors, c'est terrible. Hein.
Et là, l'unissage va être délicat. C'est Apollon 13.
C'est Apollon 13, c'est ça. Espérons que ça lui porte bonheur. Laetitia, on se retrouve dimanche prochain 6-8 sur RMC.
Oui, je vous souhaite un très bon dimanche à tous, à dimanche prochain.
Et dans un instant, ça sera Jean-Luc Moreau à mes côtés pour 2 heures dédiées à l'automobile. On va parler entre autres du prix du carburant.
Exactement.
Et plein d'autres sujets.
L'empire d'essence.
Ouh là, l'empire d'essence. Il est en forme. Attention, ça va être chaud. À tout de suite après la météo et les infos.